Bonsoir. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a publié le week-end dernier à Kinshasa la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 9 provinces sur les 26 que compte la RDC. Dans un rapport publié la semaine dernière, les organisations de la société civile estiment que 7 mois après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, sa mise en œuvre est calamiteuse. Elles affirment que la responsabilité de cette situation est partagée entre toutes les parties prenantes à l'accord. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans Tribune de la Presse. Et autour de cette table, nous avons Jean-Marie Nkambwa, il est journaliste au groupe de presse L'Avenir. Bonsoir Jean-Marie Nkambwa.
Bonsoir, confrère Guimadi.
Dominique Dinanga, il est journaliste à la radio Top Congo FM, émettant à Kinshasa. Bonsoir Dominique Dinanga.
Bonsoir Guimaté, très content de me retrouver encore une fois dans ces studios de la radio KPI. Et bonjour à tous les auditeurs.
Et Jean-Baptiste Badera, directeur de la radio-télévision Canal Futur, émettant à Bukavu, Sud Kivu. Bonsoir Jean-Baptiste Badera.
Bonsoir Guimaté et merci de m'avoir invité.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder le débat de ce soir, Alain Hirong revient sur les sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. On l'écoute dans cette revue de presse.
Bonsoir. La publication le week-end dernier par la CENI de la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 9 des 26 provinces de la RDC est l'un des sujets commentés par les journaux parus cette semaine à Kinshasa. Les principales forces de l'opposition sont les grandes absentes sur cette liste de la CENI, relève actualité.cd. Le site fait remarquer que sur les 25 candidats retenus dans le cadre de ce scrutin, 7 sont de la majorité présidentielle et 17 indépendants. Casseinfo.ca croit savoir que la MP semble avoir choisi de se débarrasser de certains de ces éléments indésirables. Pour s'en convaincre, le site d'actualité rapporte que pour la province du Haut-Katanga, par exemple, le candidat de la MP, selon cette liste, ne s'appelle plus Jean-Claude Kazembe, mais Pande Kapopo, un inconnu du grand public, selon ce média. Forum des As rappelle que la publication de cette liste intervient après le verdict des cours d'appel consécutifs aux 29 recours déposés par certains candidats et regroupements politiques. Dans un tout autre registre, le dernier rapport d'enquête du groupe d'experts des Nations Unies sur l'assassinat en mars dernier des 2 de leurs collègues au Kasaï central a aussi beaucoup été commenté par les journaux quinois. Dans ce rapport, ces experts relativisent sur les probables commanditaires ou exécutants de ce double meurtre en notant qu'il n'excluait pas l'implication dans la commission de cet assassinat de différents acteurs favorables ou non au gouvernement, des factions Kamuina Nsapu, d'autres groupes armés et des membres des services de sécurité de l'État rapportent le potentiel. Actualité.cd qui aborde cette actualité est sans équivoque. Dans le rapport, le groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo estime que l'assassinat des experts Zaïda Catalane et Michael Sharp a été prémédité, rapporte le site d'information en ligne, en soulignant que les circonstances de ce double meurtre ne sont pas encore connues. Terminons par cet autre sujet. Félix Tshisekedi va-t-il succéder à Bruno Tshibala à la tête de la primature? Le tweet de l'ancien porte-parole de la présidence Kudura Kasongo continue d'alimenter le débat politique. Félix Tshisekedi, pas demandeur, écrit Forum des As. La préoccupation n'est guère le fauteuil du Premier ministre, affirme le quotidien, qui cite Félix Tshisekedi. 7sur7.cd apporte une précision quant à la position de Félix Tshisekedi sur cette question. L'intéressé a posté sur son compte Twitter ce message. Je veux que ce soit clair, je ne suis ni demandeur ni preneur d'un poste de Premier ministre. La Kabylie qui est à l'agonie doit se sauver seule.
Merci Alain Hirong. Un commentaire Jean-Marie Nkambwa, journaliste au groupe de presse L'Avenir. L'actualité est également dominée par la radicalisation de la grève des médecins à Kinshasa. Comment vous commentez cette radicalisation de la grève?
Oui, confrère Guimaté, la grève qui est radicalisée, c'est la conséquence du contexte du moment que nous connaissons. Nous avons un contexte dominé par une crise qui est consécutive à un déficit de liquidité au niveau du compte du Trésor, ce qui fait que le gouvernement n'a plus ou n'a pas assez de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de sa population. Dans une situation pareille, c'est tout à fait normal qu'il y ait une crise à gauche, une crise à droite. Mais au-delà de cela, je pense que le gouvernement devrait prendre langue avec les intéressés afin de leur faire comprendre la situation que nous traversons. Pourquoi pas leur demander un sursis afin de pouvoir rencontrer leur desiderata. Sinon, laisser la situation pourrir comme elle est en train de l'être aujourd'hui, ce n'est pas normal, ce n'est pas digne. C'est aggraver en quelque sorte la misère de la population. C'est là qui est encore en train de souffrir davantage.
Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM, même temps à Kinshasa, médecins et professeurs revendiquent tous le réajustement de leur salaire au taux budgétaire de 1452 francs congolais. Et vous pensez que cette revendication est réaliste dans les contextes du moment? Vous venez de suivre Jean-Marie Cambois qui estime que le gouvernement n'a pas assez de moyens, n'est-ce pas, pour subvenir aux besoins de sa population.
Merci pour la parole, mais il faut d'abord déplorer la situation. On peut trouver des alibis à gauche, à droite, mais il faut savoir que la situation est tout de même grave. Il ne demande pas plus, rien que l'application du taux budgétaire qui était de 1420 francs congolais pour un dollar, si je ne me trompe pas. Il faut aussi reconnaître que depuis tous ces temps, la situation était déjà grave. Ils étaient déjà très mal payés. Et aujourd'hui, avec la dépréciation du franc congolais par rapport à la devise étrangère, la situation est devenue encore grave parce que ils ont perdu au moins 50% de leur pouvoir d'achat. Il faut savoir que depuis les débuts de l'année, le franc congolais a perdu au moins 55% de sa valeur. Et la situation est grave. Et vous connaissez bien les conséquences sur le marché. Vous connaissez les retombées sur le prix des produits de première nécessité. Quand il y a hausse du dollar, il y a également hausse de prix des produits de première nécessité. Et tout marche avec le dollar ici. Vous le savez très bien, les causes sont bien connues. Alors, au niveau du gouvernement, on devait simplement trouver une solution à ces problèmes parce que il s'agit des secteurs assez...
Face aux difficultés qu'aurait le gouvernement pour satisfaire ses revendications, que faut-il faire? Ne faut-il pas, comme le propose Jean-Marie Cambois, prendre langue avec les syndicalistes?
Gus, s'il vous plaît, il faut d'abord savoir que ces gens-là sont des pères de famille. Ils ont des enfants à scolariser. Ils ont des femmes. Ils ont peut-être des loyers à payer tous les mois. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Prendre langue avec eux pour leur dire qu'il n'y a pas de moyens. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a des moyens dans ces pays, mais c'est question plutôt de les canaliser là où ils doivent servir. C'est parce que, vous avez vu récemment, les dossiers pour des détournements, 14 au total, ce n'est pas aussi la première fois déposé par le conseil du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et les blanchiments des capitaux, qui disait que le pays perdait au moins 15 milliards de dollars chaque an. Et malheureusement, il est comme un atalakou et il anime, et puis nous dansons et finalement, on tait le dossier. L'argent est dans ces pays, mais c'est question plutôt de les canaliser là où il doit servir.
Et donc, c'est la volonté qui manque pour que l'on puisse répondre aux revendications des professeurs et médecins.
C'est la volonté qui manque parce que ce ne sont pas les moyens qui manquent à ces pays. C'est question simplement de volonté. Ces gens ne demandent pas plus. Ils demandent simplement l'application de ce que l'institution budgétaire a décidé.
Merci Jean-Baptiste Badera, directeur de la radio-télévision Canal Futur émettant à Bukavu Sud-Kivu. Qu'est-ce qui se passe à Bukavu? Il n'y a pas grogne, les gens ne murmurent pas, les professeurs et les médecins, comment ils se comportent là-bas? Est-ce que tout marche tout naturellement là-bas?
Non, c'est comme dans tous les pays, comme vous venez de le dire, comme viennent de le dire les deux confrères. Il y a également des mouvements de grève par-ci, par-là, mais la situation la plus grave est celle des agents du gouvernorat des provinces et des différents ministères provinciaux ici au sud Kivu, qui ont donc débrayé depuis maintenant près de 2 semaines. Ils sont en grève. Ils ont même élu domicile dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du sud Kivu pour revendiquer leurs droits, parce qu'ils estiment qu'ils ont fait autant de démarches pour qu'ils soient remis dans leurs droits, mais rien n'a été fait. Alors, ils passent nuit dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale pour exiger à l'Assemblée provinciale de demander au gouvernement provincial de payer au moins 11 mois des arriérés des salaires qu'ils sont en train de réclamer. Donc, c'est une situation aussi très grave qui se passe ici au sud, qui voit même chez les agents de l'État. Il y a non seulement la dépréciation du franc congolais qui, aujourd'hui, les a amenés à perdre près de 50% de leur salaire, parce que vous savez, le franc congolais a tellement chuté. Et donc, c'est une situation presque similaire qui se passe et chez les médecins et chez les enseignants, et même chez les autres fonctionnaires de l'État. Mais la situation la plus compliquée et la plus grave, c'est celle que traversent actuellement les agents qui ont travaillé dans les cabinets du gouverneur Marcelin Tshisekedi, mais également ceux qui ont travaillé dans les différents ministères, mais aussi les agents de la division provinciale des mobilisations des recettes des PMR, qui sont aussi à grève pour réclamer toujours le paiement de leur arriéré des salaires aigus.
Merci. Notre premier thème de ce soir, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a publié le week-end dernier à Kinshasa la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 9 provinces sur les 26 que compte la RDC. Sur les 25 candidats gouverneurs, 17 se sont présentés comme indépendants et 7 au nom de la majorité présidentielle. Cependant, l'opposition n'a présenté aucun candidat à ce scrutin. Les détails avec Paul Matendo.
Dans un document parvenu à Radio Okapi, la CENI déclare recevables les candidatures des indépendants, partis et regroupements politiques sur la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Kwilu, du Sud-Kivu, du Sud-Ubangi et de la Tchopo. Dans le Bas-Ouélé, c'est la candidature des indépendants qui est déclarée recevable sur la liste définitive des candidats à l'élection partielle du vice-gouverneur. Sous un autre chapitre, d'autres candidatures des indépendants, partis et regroupements politiques sont déclarés irrécevables sur la liste provisoire des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Sud-Ubangi et de la Tchopo, ainsi qu'à l'élection partielle des vice-gouverneurs des provinces de l'Équateur et de la Mongala.
Merci Paul Matendo. Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM, mettant à Kinshasa. La CENI rend publique la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Même dans les provinces où la Cour constitutionnelle avait réhabilité le gouverneur, qu'est-ce que cela vous inspire?
Ça ne surprend pas quand nous sommes dans un pays appelé la République démocratique du Congo, malheureusement. Moi, j'étais vraiment estomaqué une fois. J'étais en train de parler avec une consoeur plutôt étrangère. Elle a lâché une phrase qui m'a fait très mal. Et j'ai préféré garder ça dans le cœur quand elle me disait que chez vous, tout est possible. Donc nous sommes dans un pays où tout peut se faire, on peut se permettre de faire du n'importe quoi. La même Cour constitutionnelle n'est pas modèle. Elle n'est pas modèle parce que vous savez ce qui s'est passé autrefois quand il fallait statuer sur la requête de la majorité présidentielle demandant donc d'interpréter l'article 70. Vous savez que cette même Cour avait violé son propre règlement. Aujourd'hui, quand il doit se passer quelque chose comme cela, je prends l'exemple de la province du Haut-Katanga, où le gouverneur Kazembe a été réhabilité par la Cour constitutionnelle, la plus haute cour du pays, et aujourd'hui, simplement parce que sa famille politique a retiré sa confiance en lui, une raison pour M. Corneille Nanga, donc, d'agir, je ne sais pas comment, monarque, aller organiser l'élection là où il y a un gouverneur. Donc, il y a un gouverneur encore en place parce qu'il a été réhabilité par...
Vous trouvez cette situation normale?
Ce n'est pas normal, c'est vraiment insupportable pour un pays qui se veut démocratique. Donc, remettre en cause la décision de la plus haute cour, ça ne s'est fait qu'en République démocratique du Congo et je dénonce cela.
Merci Jean-Marie Kamboua, journaliste au groupe de presse L'Avenir. Il y a des experts qui voient à travers cette publication une certaine banalisation de la Cour constitutionnelle par une partie de la classe politique et notamment la majorité présidentielle.
Confrère, en tant qu'analyste, j'essaie un peu d'analyser les choses pour en tirer un profit, non seulement à partager entre nous, mais aussi à toute notre population congolaise. Lorsque je me rends compte qu'un gouverneur de province est l'émanation de l'Assemblée provinciale, c'est là qu'il a été élu, et que, avant même qu'il ne soit élu par l'Assemblée provinciale, il a été choisi par sa famille politique. Ça peut être la majorité présidentielle, l'opposition, ou bien un autre regroupement politique qu'il avait proposé à ce poste-là avant qu'il ne soit élu. Et une fois qu'il a été élu, il a un programme qu'il a défendu, et c'est sur base de ce programme-là qu'il est élu. Et le même député provincial qu'il avait élus, ce sont les mêmes qui peuvent à un moment donné les déchoir à travers les motions. Et ce qui a été fait pour certains gouverneurs, notamment Kazembe dont on parle aujourd'hui.
Et il y a des procédures, n'est-ce pas, qui sont consignées dans la Constitution. Et lorsque ces procédures ne sont pas respectées, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
J'arrive, confrère. Je pense qu'il faut, à un moment donné, faire un distinguo entre les juridismes et la réelle situation sur terrain. Il est vrai que vous pouvez être frappé par une motion, mais lorsque vous vous rendez à la Cour constitutionnelle, ça peut être un problème de procédure, mais la procédure n'a pas annulé les faits causés antérieurement.
C'est justement le cas de Kazembe. La Cour constitutionnelle a estimé que la procédure n'était pas légale.
Voilà pourquoi j'y arrive. La procédure n'a pas été légale, bien sûr, mais lorsqu'on retourne au niveau de l'Assemblée provinciale, on se rend compte que plusieurs raisons ont été évoquées, mais peut-être que ces raisons-là ne l'étaient pas au niveau de la Cour constitutionnelle. Et ces raisons-là avaient conduit ou bien peuvent conduire à l'altération des relations ou à ce que l'équilibre soit rompu entre l'Assemblée provinciale et son gouverneur. Et qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là? Moi, je pense qu'il est de l'intérêt général pour les pouvoirs qui nous dirigent, il est de l'intérêt général que des solutions soient trouvées afin d'anéantir, s'il faut le dire ainsi, une crise qui naîtrait et qui risquerait de paralyser les institutions,
donc,
qui risquerait d'empêcher que le gouverneur ou les programmes pour lesquels le gouvernement a été élu ne puissent pas être exécutés.
Donc vous trouvez normal que la CENI puisse publier, n'est-ce pas, des listes pour les provinces où les gouverneurs ont été réhabilités par la Cour
constitutionnelle? Je ne suis pas un ministère public. Ce que je donne, c'est une contribution en tant que journaliste. Imaginez-vous que tous ces gouverneurs ont des programmes, mais qui peut aujourd'hui nous dire à quel niveau le programme a été réalisé pour l'intérêt de la population? Merci. Raison pour laquelle moi je pense que l'effort doit être fait. Il n'est même pas important que l'on change celui-ci ou celui-là, mais ce qui doit nous préoccuper, ce qui doit préoccuper tout le monde, c'est la satisfaction des besoins de la population. Cette population-là qu'on a trouvée dans une pauvreté accrue, qu'avons-nous fait comme effort pour lui en sortir? Sinon, tout ce que nous faisons n'aura pas d'éclat.
Merci Jean-Baptiste Badera, directeur de la radio-télévision Kadal Fitir, mettant à Bukavu Sud-Kivu. Le journal L'Avenir, c'est le journal de notre ami Jean-Marie Nkambwa, nous apprend que certains candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, notamment au Sud-Kivu, doivent être invalidés par la Cour suprême de justice parce que la majorité présidentielle se sent lésée et l'a même déposé mardi soir une requête contre les arrêts de la Cour d'appel qui ont validé des candidats MP indépendants.
Oui, c'est ça la situation dure. En tout cas, même ici à Bukavu, il y a eu des procès par rapport à l'un ou l'autre candidat. Certains des candidats estimaient que des candidats qui ont été retenus par la CENI n'ont pas respecté les normes, notamment les candidats de la majorité qui, selon certains candidats gouverneurs du Sud Kivu, ont déposé la caution en retard. Ils sont encore fonctionnaires de l'État. Ils sont encore membres de notre parti politique qui n'est pas celui sous lequel ils se présentent comme candidats. Il y a donc tous ces problèmes. C'est des procès en procès qu'on va. Mais ici au Sud Kivu, moi particulièrement, je pense que ces élections sont une distraction, une digression, parce que le peuple, à mon avis, attend les élections couplées présidentielles, législatives et provinciales qui, en principe, doivent se tenir dans l'accord de la Saint-Sylvestre avant la fin 2017 pour avoir de nouveaux députés qui vont voter, nouveaux gouverneurs et de nouveaux sénateurs. Vous allez vous rappeler que l'année passée, on avait prévu l'élection des députés provinciaux, les cautions avaient même été payées, mais on n'avait pas organisé les élections au motif qu'il n'y avait pas d'argent. Et aujourd'hui, on veut organiser les élections des gouverneurs dans 9 provinces à l'époque, il y avait 11 provinces, mais là, il n'y avait pas d'argent. On se demande d'où vient l'argent brusquement pour organiser ces élections. Mais aussi, notre question, c'est celle de savoir pourquoi on n'a pas prévu des élections dans les Kasaï, où il y a des problèmes. Tout le monde le sait qu'aujourd'hui, cette province-là qui défait la chronique sur le plan sécuritaire notamment, mais là, il n'y a rien qui est organisé. Mais du coup, on est dans d'autres provinces. On venait ici de parler du cas de Jean-Claude Kazembe, qui a été réhabilité par la Cour Mais on se demande de la CENI, donc bafoue la Cour, et au vu de cette situation, on ne sait pas ce qui se cache derrière la CENI, au vu de ce, vraiment, c'est un désordre qui n'honore pas la CENI, et c'est une honte pour la démocratie, surtout pour la CENI, en République démocratique du Congo. Bref, moi, je pense que c'est juste une distraction, et la plupart des Congolais pensent que c'est seulement un moyen, encore une fois, de vouloir faire tenir les choses, et que les élections ne seront pas organisées comme le prévoit l'accord du 31 décembre.
Oui, Jean-Baptiste Badera, vous avez évoqué le Kassai, et ici il s'agit du Kassai central, où effectivement il y a des gens qui ont postulé, n'est-ce pas, qui ont déposé leur dossier, mais des dossiers qui ont été rejetés par la CENI pour défaut de candidature. C'est ce qui a été dit par la CENI, c'est pourquoi au Kassai, apparemment, on ne va pas organiser pour le moment les élections. Mais pour ceux-là qui pensent qu'en publiant ces listes définitives, en dépit du fait que la Cour constitutionnelle avait déjà réhabilité quelques gouverneurs avec une vice-gouverneure, ceux qui pensent que c'est une façon de banaliser cette Cour constitutionnelle, est-ce que vous partagez ces points de vue?
Oui, tout à fait, je la partage parfaitement parce que la justice doit être au-dessus de tout, et là on pense que la CENI est inféodée quelque part à un autre soit courant qui n'est pas celui d'organiser les efforts du peuple congolais. La CENI est supposée être neutre, mais on ne peut pas comprendre qu'une décision qui a été déjà prise par la Cour qui est valide. On peut comprendre ça. Dans un pays qui se dit démocratique du Congo,
Jean-Baptiste, votre ligne se dégrade. Hein? Est-ce qu'il y a moyen de bouger un peu, ou si vous êtes dans une maison, essayez de sortir? Voilà, nous allons vous rappeler, votre ligne se dégrade. Nous allons vous rappeler. Dominique Dinanga, aucun candidat de l'opposition dans cette compétition. Comment vous analysez cela? L'absence de l'opposition.
Ça ne surprend pas parce que nous savons comment sont composées nos assemblées provinciales. Elles sont majoritairement composées de gens, bien sûr, des députés de la majorité. Nous savons, avec tout ce qui s'est passé dans les élections précédentes, ils se sont simplement découragés, mais c'est une décision que moi, personnellement, je n'encourage pas. C'est la démocratie, il faut toujours ne pas avoir peur de s'exprimer. En tout cas, accepter simplement de se résigner, je trouve que ce n'est pas une décision assez responsable. Ça ne m'engage que moi. Alors, mais je devais revenir sur cette histoire de Kazembe, bien sûr, dans la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, j'allais vous dire que la Cour constitutionnelle est vraiment mise à l'épreuve. Nous allons voir comment la Cour va réagir après l'élection du gouverneur. Est-ce qu'elle va valider ces élections ou elle va les annuler? C'est aujourd'hui que nous allons comprendre si c'est une Cour instrumentalisée ou c'est juste une caisse à résonance. Voilà. Nous allons voir ce que la Cour va faire. Et puis, la CENI est en train simplement de confirmer ce que les autres disent, qu'elle est dans la poche de la majorité présidentielle. Moi, je me demande, quel droit avait Corneille Nangaa d'aller organiser les élections là où la Cour constitutionnelle reconnaissait donc les gouverneurs qui sont là en place? Je reviens sur le cas Jean-Claude Kazembe. C'est vrai que Jean-Claude Kazembe a brillé dans la mauvaise gestion. C'est vrai qu'il a été désavoué par l'Assemblée provinciale. Il y a des procédures, mais s'il faut s'en tenir aux principes, les principes restent les principes. On ne va pas les violer parce que il faut satisfaire aux besoins de telle famille politique ou telle autre famille politique. Mais les principes restent les principes et tout le monde est obligé de les respecter. La loi reste la loi et la loi est au-dessus de tout le monde. Alors on ne pouvait pas violer, quelle que soit la raison, comme était en train de le dire mon cher grand frère Jean-Marie Nkamboa. Aucune raison ne peut justifier le fait qu'on puisse remettre en cause une décision de la plus haute cour.
Merci. Jean-Marie Kamboa, la cour est mise à l'épreuve, comme le dit Dominique Dinanga. Est-ce que, à travers la publication de ces listes, on ne met pas la cour constitutionnelle dans une situation embarrassante parce que Dinanga l'a rappelé? Et sera appelée, n'est-ce pas, à prendre acte de l'élection du nouveau gouverneur. Est-ce qu'elle va prendre acte de l'élection du nouveau gouverneur, même même dans les provinces où elle a eu à réhabiliter le gouverneur.
C'est ce que tout le monde voudrait voir. Nous tous, toute la population attend voir quels seraient les comportements de la Cour constitutionnelle maintenant qu'elle a été mise à rude épreuve. Mais je voudrais quand même dire un petit mot, parce que la CENI, il est vrai que c'est une institution d'appui à la démocratie, mais n'oublions pas aussi que la CENI, dans d'autres États, la CENI demeure un organe du gouvernement qui organise les élections par rapport au programme lui présenté par le gouvernement. Mais quand même, dans notre pays, on a fait qu'elle soit non seulement indépendante, mais néanmoins qu'elle puisse dépendre du gouvernement pour certaines matières, pour certaines choses, notamment les financements. Financement, dans notre culture africaine, c'est la main qui donne et qui conditionne. Et n'importe qui et tout le monde ne doit pas...
Et donc là, vous êtes en train de confirmer les propos de Dominique Dinanga qui disait que la CENI est dans la poche de la majorité présidentielle.
Non,
vous confirmez cela?
Je ne peux pas dire cela dans la mesure où, avant que la CENI ne puisse se prononcer, il y a eu des documents. La CENI a été saisie, notamment par un document des assemblées provinciales, surtout pour l'assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il y a eu un document. Il y a eu aussi un autre document au niveau du gouvernement. Ce sont des documents qui sont détaillés et qui donnent des raisons pour lesquelles la CENI ne devait pas. Imaginez-vous un peu.
Elle a choisi son camp.
Imaginez-vous un peu si on arrivait à un bras de fer entre gouvernement et CENI, ça nous conduirait à quoi? Ça nous conduirait à quoi? D'autant plus que la CENI, non seulement qu'elle est institution d'appui à la démocratie, mais elle est là parce que le gouvernement est là. Elle est là parce que le gouvernement, déjà, le gouvernement qui a défendu son
programme.
Et donc,
elle doit accepter tout ce que le gouvernement demande de faire, même quand cela viole
les lois
du pays.
Le gouvernement, par exemple, qui a défendu son programme d'action au niveau du. Le gouvernement qui a défendu son programme d'action au niveau du Parlement a un programme. Et n'oublions pas aussi que nous avons l'accord de la Saint-Sylvestre qui stipule clairement que les élections doivent être organisées dans tel contexte ou autre. Comme pour dire que la CENI ne doit pas se sentir indépendante ou à l'écart de toute cette réalité-là. La CENI ne doit pas fermer l'œil lorsqu'il s'agit d'un gouverneur comme celui du Kassai Central, qui a été mis à l'écart depuis longtemps parce qu'incapable de gérer la crise comme on a sa peau. Donc la CENI ne pouvait pas fermer l'œil par rapport à cette situation, raison pour laquelle, une fois qu'elle a été saisie par le gouvernement, une fois qu'elle a reçu les documents, notamment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, elle ne pouvait que trouver un moyen afin de satisfaire les uns et les autres. Satisfaire les uns et les autres, c'est quoi? C'est d'organiser les élections pour les provinces qui sont concernées, afin de pourvoir. Donc on ne peut pas dire que c'est une distraction. Ce n'est pas une distraction.
Merci.
Mais c'est pour répondre à un besoin. Le peuple doit se retrouver derrière son gouvernement. Son gouverneur. C'est le gouverneur qui a un programme et ce programme doit être réalisé au nom et pour le compte de ce peuple.
Merci.
Et si, et seulement si, certains opposants n'ont pas trouvé l'intérêt de postuler, c'est de leur liberté et c'est de leur choix. Et personne ne les a interdits de pouvoir le faire.
Merci Jean-Baptiste Badera. Est-ce que vous êtes encore là? Allô Jean-Baptiste Badera? Voilà. Et Dominique Dinanga, après la publication de ces listes, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral dans ces pays?
Mais déjà, quand on est mal parti, il n'y a rien à espérer de bon. On est déjà très mal parti. Nous sommes dans un pays, je crois que le sujet sera également traité. Je ne veux pas déjà vous devancer sur la mise en application de l'accord même de la Saint-Sylvestre. Nous sommes un pays qui ne respecte pas les principes, donc le pouvoir en place ne veut pas respecter le principe. Mon cher confrère Jean-Marie Cambois disait que la CENI répondait à un besoin. Il a dit quelque chose dans le sens. Mais je vous rappelle que la CENI veut dire simplement Commission électorale nationale indépendante. Je souligne bien indépendante. Ça veut dire que les délégués qui sont là cessent même d'appartenir à leurs composantes qui les avaient délégués là-bas.
Mais elle a un cordon légal.
La Commission électorale nationale indépendante est indépendante et c'est une institution à part en
termes d'appui
à la démocratie.
Dominique,
elle n'a pas d'instruction à suivre de n'importe, à recevoir de
Dominique,
n'importe qui.
Dominique,
ce n'est pas un gouvernement qui va imposer à faire à
Dominique,
la CENI.
Dominique, est-ce que Jean-Marie Cambois n'a pas raison quand il dit que cette CENI, bien qu'elle soit indépendante, elle dépend par rapport à certains aspects du gouvernement, notamment des financements.
ça ne remet en rien son indépendance. C'est le gouvernement qui doit bien sûr financer le processus électoral, ça c'est la mission du gouvernement.
Merci.
Mais en matière d'organisation des élections, Corneille Nangaa l'a toujours répété, la CENI n'a pas d'instruction à recevoir de qui que ce soit le gouvernement, que ce soit la majorité présidentielle, que ce soit l'opposition, personne ne peut imposer rien à la CENI.
Merci, Dominique.
Et la CENI a le droit de respecter les lois de la République, les principes s'imposent à tous.
Merci, nous avons compris. Jean-Baptiste Badera, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, oui, Jean-Baptiste Badera. Voilà. Et nous avons suivi la société civile du Sud-Kivu qui a réagi par rapport à la publication des listes définitives des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Et elle a demandé à ce que cette fois-ci, que les députés provinciaux puissent élire, n'est-ce pas, en toute indépendance, sans tenir compte de la consigne qui viendrait, n'est-ce pas, de Kinshasa. Et vous pensez que cette société civile sera écoutée par les députés provinciaux du Sud-Kivu?
Bon, d'abord, je pense que ça sera pas facile hein, que ces députés puissent suivre les vœux de la société civile du Sud-Kivu, d'autant plus que toutes les élections qui ont amené les trois gouverneurs qui viennent d'être déboutés par la majorité a été quand même la même chose. Donc, on reprend les mêmes choses, les mêmes situations, on recommence. Dans les précédentes élections, on a vu que les consignes qui étaient données par la majorité étaient suivies. La première fois, on a élu les gouverneurs qui étaient candidats de la majorité. La deuxième fois, la même chose. Et la troisième fois, il y avait un candidat et un autre qui était indépendant et qui avait quand même réussi à avoir plus de 10 voix. Et on pense que peut-être que les choses sont en train d'évoluer, d'autant plus que les députés qui sont montés au créneau pour demander que le gouverneur puisse s'expliquer devant les députés provinciaux sont de la majorité. Mais malheureusement, même si on dit qu'on veut qu'ils soient libres, ce sera très très difficile, d'autant plus que tout d'abord, la majorité est de la majorité, et on voit mal comment ils vont aller contre la volonté de leur majorité, surtout que les voix s'élèvent déjà pour dénoncer ce qui se passe dans les différents états-majors, pour qu'ils puissent élire pour les députés, les candidats de la majorité présidentielle. On comprend donc que les autorités au niveau central, quelque part, ils ont peur de la décentralisation, c'est parce que l'État est faible, et c'est pour cette raison qu'ils imposent des gouverneurs.
Merci,
et les mêmes causes prévoient les mêmes effets. On pense que ça sera encore un échec et le gouverneur qui va arriver, non seulement il va trouver la question de 11 mois d'arrêt de salaire sur sa table, mais aussi il va trouver que c'est une province qui est vraiment très très en retard par rapport au développement. Je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir. Donc, les députés donc sont appelés à plus de responsabilités par rapport au nouveau vote, mais je ne pense pas qu'ils seront capables de se défaire de la volonté de la majorité présidentielle.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Dans un rapport publié la semaine dernière, les organisations de la société civile estiment que 7 mois après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, sa mise en œuvre est calamiteuse. Elles affirment que la responsabilité de cette situation est partagée entre toutes les parties prenantes de l'accord. Accord de la Saint-Sylvestre, où en sommes-nous et quelles sont les perspectives? C'est l'intitulé du 6e rapport élaboré par le groupe de travail composé de plusieurs ONG nationales. Dans ce rapport, les rédacteurs affirment que la mise en application de cet accord est calamiteuse. Les grandes lignes de ce rapport avec Berry Franklin Luchaka.
À en croire les rédacteurs de ce rapport, pour les 7 mois écoulés, les parties prenantes se sont au fil du temps éloignées de l'esprit et de la lettre de l'accord. Pour les ONG, le consensus de la CINCO a été brisé, la bonne foi s'est envolée et a cédé la place à l'épreuve des forces et à la loi du plus fort, ce qui replonge le pays et sa population dans les incertitudes d'avant décembre 2016. En ce qui est des responsabilités, elles sont partagées, écrivent les ONG. La majorité présidentielle au pouvoir abusant de sa position dominante et l'opposition politique morcelée, incapable d'avoir une position commune, ainsi qu'une frange de la société civile sans voix audible, alignée de gré ou de force sur l'une ou l'autre force politique en présence. Parmi les recommandations, les ONG demandent entre autres aux souverains primaires d'exercer tous ses droits prévus par la Constitution, notamment les libertés de pensée, de conscience, d'expression, de réunion pacifique et de manifestation publique comme moyen de pression sur les parties prenantes à l'accord politique du 31 décembre 2016. Aux parties prenantes, les ONG recommandent de faire preuve, entre autres, de bonne foi pour faciliter l'organisation des élections dans le respect du délai convenu dans l'accord politique. Et les rédacteurs de ce rapport demandent au Parlement d'adopter, dès l'ouverture de la session de septembre 2017, des lois essentielles pour l'organisation des élections dans le délai convenu dans l'accord politique. Enfin, au président de la République, les ONG recommandent, entre autres, de veiller à la libération des prisonniers politique et d'opinion pour la décrispation effective du climat politique, la cessation des arrestations arbitraires, des détentions illégales, ainsi que l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques.
Merci Berry Franklin Luchaka, Jean-Marie Kamboa, je rappelle que vous êtes journaliste au groupe de presse L'Avenir. La mise en application de l'accord du 31 décembre 2016 est calamiteuse. Comment vous analysez
la mise en œuvre de cet accord ne doit pas sortir du contexte. Quel est le contexte que nous avons débattu tout à l'heure? C'est notamment l'inexécution des arrêts de la Cour constitutionnelle. C'est l'inexécution de plusieurs recommandations du Parlement adressées au gouvernement. C'est l'inexécution de plusieurs lois qui sont adoptées par le Parlement. C'est aussi l'inexécution de plusieurs décisions judiciaires qui sont rendues dans notre pays. Voilà le contexte ainsi peint.
Et donc, ces ONG ont raison quand elles disent que sa mise en application est calamiteuse.
Tu me mets dans un coin où je dois répondre par oui ou non. Mais moi, je préfère vous donner les éléments afin que la population qui nous suit puisse elle-même tirer les conclusions en détaillant les difficultés que nous avons d'abord à respecter les décisions de justice qui sont rendues. Si aujourd'hui la Cour constitutionnelle peut se permettre de rendre une décision et qu'elle se rend compte que demain elle ne sera pas suivie ou quoi, qu'est-ce qui va justifier sa présence? Si aujourd'hui plusieurs lois sont votées par le Parlement, mais on a du mal à pouvoir les exécuter aujourd'hui, à un moment donné, le Parlement devrait se demander à quoi il sert. De même, les ONG n'ont fait que lancer l'alerte par rapport à la direction que le pays est en train de prendre. Il est vrai qu'avant la mise en place du dit accord, le président de la République a rencontré la classe politique de notre pays. Et je me souviens, comme on couvrait à l'époque les audiences, la classe politique s'était dessinée, notamment celle qui pensait qu'il fallait aller dans les sens qui étaient voulus par notamment la majorité présidentielle, et celle qui était dans le sens de l'opposition, qui pensait que la démarche telle qu'entreprise par les autres est biaisée. Donc, étant donné que au niveau des fondamentaux, on s'est pas entendu, autant donné qu'au niveau d'abord de la base, il n'y a pas eu harmonie de vues entre les uns et les autres, il ne fallait pas espérer grand-chose. Raison pour laquelle on ne peut qu'arriver à cette situation-là.
Merci Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM mettant à Kinshasa. La mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre est calamiteuse, comme le pense Jean-Marie Kamboa, même s'il ne veut pas le dire clairement.
Il y a certaines choses qui ne nécessitent pas d'avoir des yeux de lynx pour bien le voir. Il faut d'abord rappeler dans quel contexte l'accord de la Saint-Sylvestre a été signé avant de parler de sa mise en application. Les acteurs politiques et de la société civile sont allés au dialogue. C'est parce que il y a un pouvoir en place qui n'était pas en mesure d'organiser les élections. Et pour être encore dur, pour être plus clair, je dirais, un pouvoir qui a refusé délibérément d'organiser les élections dans le délai constitutionnel pour des raisons égoïstes qui sont très bien connues. C'est dans ces contextes-là qu'il y a eu dialogue, il y a eu tous ces conciliabules. C'était pour décrisper la situation politique. Il fallait décrisper la situation politique et l'objectif du dialogue, principalement, était de créer un climat apaisé de cohésion sociale et politique propice à la tenue des élections présidentielles, législatives et provincial en une séquence, comme les acteurs qui étaient donc partie prenante au dialogue l'avaient convenu.
Est-ce que l'objectif a été atteint?
L'objectif n'a pas été atteint.
Tous les acteurs s'étaient convenus sur le principe. Mais s'il n'y a pas eu application de cet accord ou une faible mise en application de cet accord, c'est parce qu'il y a eu quelque part l'absence de volonté politique des acteurs partie prenante au dialogue, parce que tout a été déjà fait.
Et donc les ONG, l'accord a été signé. Lorsqu'elles disent que, lorsqu'elles culpabilisent tout le monde, elles ont raison. Pour elle, la responsabilité est partagée entre d'un côté l'opposition, de l'autre côté la majorité
à différents degrés,
la société civile.
À différents degrés. Tout le monde, il n'y a personne qui soit épargné dans cette histoire. Vous avez une majorité têtue, si je peux le dire, permettez-moi les termes, et une opposition manipulable qui aide cette majorité donc à étancher sa soif, ou plutôt à... Je ne sais pas quel terme utiliser, parce qu'il y a des choses qui sont quand même insupportables.
Et dans tout ça, c'était quoi? Où est la société civile? Elle est où dans
elle
tout
est
ça?
Elle est là.
Elle fait quoi?
Qu'est-ce qu'elle fait exactement? C'est une société civile. Est-ce qu'il en existe d'abord une dans ces pays? Moi, je me demande s'il existe une société civile dans ces pays. Quand vous trouvez une société civile pour majorité et une société civile proche de l'opposition, franchement, il n'y a pas de société civile dans ces pays. Tout le monde est vraiment concerné. Il fallait d'abord, avant tout, décrisper le climat politique. Et il y a quatre principales mesures qui ont été prises. Et rien qu'en énonçant donc ces mesures, vous allez comprendre vous-même et les auditeurs qui sont en train de nous suivre en ce moment vont comprendre si l'accord de la Saint-Sylvestre a été appliqué ou non. J'évoque ces mesures. La première mesure, c'était la cessation des poursuites judiciaires ou incarcération de certains opposants et acteurs de la société civile. Où en sommes-nous aujourd'hui? Moïse Katumbi est toujours empêché de rentrer dans son pays. Il faut reconnaître quand même qu'il y a eu certaines libérations parce qu'il ne faut pas voir le tout en noir, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan parce que nous avons vu quand même la libération de certains opposants.
La deuxième mesure.
Mais Muyambo est toujours en prison. Moïse Katumbi empêché de retourner. Les arrestations arbitraires continuent. Pas de liberté de manifestation. La deuxième mesure, c'était l'accès aux médias publics pour tous et la réouverture de certains médias fermés. Où en sommes-nous? La troisième mesure, permettez-moi s'il vous plaît, la résolution de la question des dédoublements de partis. En tout cas, quelqu'un me disait, ne soyez pas surpris aujourd'hui d'apprendre que même la CNCO a été dédoublée.
Et la quatrième mesure.
Les dédoublements continuent.
La quatrième mesure.
Même le mouvement des jeunes.
La quatrième mesure.
La quatrième mesure, c'était l'assistance financière du gouvernement aux victimes de manifestations violentes. Ça n'a pas été fait.
Merci Jean-Baptiste Badera, directeur de la radio-télévision Canal Futur, émettant de Bukavu, Sud-Kivu. Manque d'indépendance des animateurs, l'absence de fiabilité des fichiers électoraux, l'absence du calendrier électoral et donc des planifications des échéances électorales. Et ces ONG culpabilisent tout le monde. Est-ce que vous percevez les choses de la même façon?
Oui, je perçois les choses de la même façon. Je vais d'abord commencer par une autre recommandation qui n'a pas été suivie, c'est la liberté de manifester. Vous avez suivi que le 31 juillet dernier, il y a eu une manifestation pacifique que la société civile a organisée pour aller déposer le mémorandum à la CENI et l'exigeant depuis le calendrier. Cette manifestation a été réprimée dans le sens qui n'est pas donc un respect à l'accord. Et pourtant, l'accord a des acquis, par exemple, pas de révision constitutionnelle, pas de référendum, pas de troisième mandat, le sort du président déjà réglé par la Constitution, comme l'a dit lors de son dernière intervention devant les deux chambres du Parlement. Donc, beaucoup de choses n'ont pas été respectées. Et pourtant, comme l'a dit Dinanga, les accords qui ont été signés, c'était pour justement qu'on ait une alternance en douceur, qu'on évite l'effusion des sangs dans ces pays. Il faut donc que ceux qui sont en train de vouloir bloquer les élections cette année comprennent qu'il y a quand même une vie après avoir occupé une fonction et comprennent que l'alternance, la démocratie rime avec le développement. Il faut voir des exemples comme la Tanzanie, le Sénégal, le Ghana notamment, qui ont donc réussi ces passages-là et on sent que les choses évoluent de ce côté-là.
Merci Jean-Marie Kamboa, nous sommes à la fin de l'émission, vous allez répondre brièvement. Et la solution adéquate et réaliste aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons un Premier ministre qui est en fonction, il y a un président du CNSA qui est en fonction. Que faut-il faire? Désavouer ces animateurs-là et les remplacer par de nouveaux animateurs ou les maintenir et insérer dans les institutions les gens qui n'y sont pas? C'est quoi la solution aujourd'hui?
Il y a une difficulté qui a trait à la date du 31 décembre 2017, parce que selon l'accord de la Saint-Sylvestre, les élections devaient être organisées à partir de cette date-là. Étant donné que le même accord prévoyait qu'il fallait une concertation entre le gouvernement, le CNSA et la CENI, je pense que on peut avoir qu'une des causes qu'à travers cette concertation, qu'à travers un dialogue, qu'à travers un compromis. Merci. Parce que le bras de fer ne pourra pas nous profiter.
Merci Dominique Ndinanga. Votre conclusion, c'est quoi la solution aujourd'hui?
La solution, il ne faut pas la chercher au ciel. La solution, il ne faut pas la chercher ailleurs, mais c'est simplement une question de volonté politique. Moi, j'ai toujours dit que le jour où le pouvoir en place voudra qu'il y ait des élections dans ces pays, il y en aura.
Merci, merci à Willem Lungamba qui était à la technique, à Alain Hirong qui a coordonné et a réalisé cette émission sous la supervision de Pelle Kipelamondo, à la présentation Guy Maté, et à la semaine prochaine pour un autre numéro des Tribunes de la Presse. Et bon week-end sur Radio Capi.